I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me chercher sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Chaque fois que je débouche une bouteille de champagne, l'air malicieux du chanteur Higelin résonne à mon oreille. Pas forcément dans cette version tonique diffusée par TF1 en 1982, une archive d'Olina. Le champagne de fines bulles, dont il ne faut pas abuser bien sûr, de fines bulles qui ont aujourd'hui la gueule de bois. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose de poser votre coupe et d'aller en vendange dans le Champenois. Désolé s'il faut se lever tôt.
Et là, je viens d'arriver avec Christine du domaine Pio Sevillano. Là, je vais faire quoi aujourd'hui ?
Bah, tu vas couper des raisins.
Drôle d'année 2020 aussi pour le champagne. Le club de foot de Reims retrouve la Coupe d'Europe après 57 ans d'absence. Une occasion de faire la fête dans la région et de déboucher quelques roteuses, comme disait mon grand-père en hommage à Alphonse Boudard. Car les occasions de faire sauter le bouchon ont été plus rares cette année en raison de l'épidémie de Covid-19. Marie-Josée Cougar, vous êtes journaliste aux Échos en charge de l'industrie agroalimentaire. Le 2 juin dernier, les viticulteurs champenois ont publié des prévisions de vente et il y avait de quoi leur donner mal à la tête.
Oui, je crois qu'ils ont toujours très mal à la tête d'ailleurs parce que les prévisions sont de l'ordre d'une perte de 1 milliard d'euros pour cette année, pour un chiffre d'affaires qui ordinairement est de 5 milliards. Donc oui, c'est une perte potentiellement très lourde. Ouais.
C'est un scénario catastrophe ?
Non, je dirais pas ça. C'est évidemment, c'est très lourd pour les Champenois, mais ça n'est pas un scénario catastrophe. Ça le serait si on enchaînait des mauvaises années de ce type. Et ça ne l'est pas parce que ce sont des gens riches, des maisons riches et un commerce qui se porte bien grâce à son appellation spécifique qui ne peut être produite qu'en Champagne.
En l'été passé, les bars ont rouvert, mais pas les boîtes de nuit. Des fêtes de famille ont pu avoir lieu, hein, des mariages notamment. Ça redonnait un peu de tonus au marché du champagne ?
Un petit peu. En fait, ce qui s'est correctement porté, ce sont les ventes en grande distribution. Mais bon, l'humeur, quand on était confiné, l'humeur n'était pas vraiment à boire du champagne. En revanche, quand on s'est déconfiné, tout le monde a eu envie de fêter le déconfinement et il y a eu une espèce de poussée, mais qui n'a pas duré, qui était, on va dire, un soufflet qui a retombé assez rapidement. Mais bon, en gros, si on n'avait pas eu les ventes en grande distribution, ça aurait été catastrophique. En revanche, ce qui évidemment a beaucoup manqué aux Champenois, c'est la restauration, les boîtes de nuit, les bars. Et puis l'exportation.
Ça, l'exportation, il y a eu vraiment un impact négatif ?
Oui, il y a eu un impact important. Déjà parce que le trafic, ne serait-ce que les ventes par les compagnies aériennes, la consommation dans les avions est relativement importante. On en consomme 1 million de bouteilles dans les avions. Donc, pour une production qui est d'ordinaire de 300, les très bonnes années, on est allé jusqu'à 340, je crois, millions de bouteilles. Ça fait un moment qu'on est à 300. Et cette année, on ne sait pas trop si on sera à 200 ou un peu plus.
1 milliard de manque à gagner pour le Champenois, vous n'allez peut-être pas me croire, mais ça aurait pu être pire. Le secteur anticipait en pleine crise une baisse des ventes de 100 millions de bouteilles pour un manque à gagner de 1 milliard 700 millions d'euros. Preuve d'un été un peu plus festif que prévu.
En fait, moi, c'est Pauline, et je suis parisienne depuis 24 ans, et je pars découvrir le monde en solitaire. Plus exactement, je pars en Champagne-Ardenne pendant une semaine.
La Champagne, comme d'autres régions viticoles, compte aussi sur l'œnotourisme, comme on peut l'entendre ici avec Pauline, qui a profité d'une balade œnologique et bucolique autour du vignoble d'Ay. Marie-Josée, cette activité a aussi souffert ?
Oui, parce que les gens étaient moins portés. Enfin, bon, il y a eu la période du confinement où clairement les gens ne sont pas allés se balader dans les exploitations. Et puis c'est beaucoup un état d'esprit. Le champagne, ça reste quelque chose de festif et on a envie de se rapprocher du champagne quand on va bien, pas quand on est un peu inquiet. Donc le no-tourisme, que ce soit dans le vignoble champenois ou ailleurs, il a pris un coup. Oui.
Même les grosses maisons de champagne ont souffert, à l'image de LVMH, par ailleurs propriétaire des Échos. Le groupe a annoncé une baisse de 23% de son chiffre d'affaires vin et spiritueux au premier semestre. En 2019, il avait écoulé près de 66 millions de bouteilles, dont 85% à l'export. Si le groupe a les reins solides, je me suis demandé comment les structures plus petites avaient vécu cette année particulière à l'heure des vendanges.
RMC 7h08, les vendanges pour produire le champagne démarrent en ce moment. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que le millésime 2020 s'annonce excellent. La mauvaise, eh bien, c'est que les ventes de champagne ont chuté de 30% à cause du Covid-19.
Les amateurs de vin connaissent les vendanges tardives qui se pratiquent en général un mois après la fin des vendanges traditionnelles, en général en novembre. Cela se pratique depuis des siècles. Mais il va peut-être falloir aussi s'habituer aux vendanges précoces. RMC en parlait dans son journal dès le 20 août. Le ban des vendanges en Champagne a en effet été publié dès le 15 août, avec 3 semaines d'avance, comme en 2018.
La météo a été exceptionnelle depuis le printemps et on retrouve ce scénario depuis 2003 à peu près. On a fait plusieurs vendanges au mois d'août et non plus en septembre ou même en octobre.
Julien Duval-Leroy est directeur général adjoint des Champagnes Duval-Leroy. La maison exploite 200 hectares de vignes, principalement dans la Côte des Blancs au sud d'Épernay. À sa tête, Carole et ses 3 fils, Julien, Charles et Louis. Julien Duval-Leroy le disait, la météo a été favorable cette année. Un printemps sans gelée, suivi d'un été très chaud, ce qui a favorisé la maturation précoce du raisin. Mais ce n'est pas forcément de mauvais augure pour les vendanges, Julien Duval-Leroy.
On a eu très peu de problèmes avec les années dites précoces. Après, on se méfie toujours du terme précoce. Nous, on préfère parler de maturité des raisins. Et c'est vrai que cette maturité se fait de mieux en mieux, on ne peut pas le dire trop fort, mais le réchauffement climatique a fait du bien à la Champagne.
Comment est-ce qu'on définit d'ailleurs cette date des vendanges, le banc des vendanges ?
Alors c'est ce qu'on appelle nous le réseau maturation. Dans chaque commune, vous avez des référents qui vont faire des prélèvements dans les vignes et qui vont regarder si les raisins sont suffisamment mûrs pour faire cette vendange. Et ils proposent des dates par commune. Et une fois que ces dates ont été recoupées avec les différentes communes, elles sont validées par l'INAO, le préfet. Et donc, vous avez la possibilité de commencer les vendanges à la date indiquée. Mais vous pouvez tout à fait attendre ou même faire une déclaration si vos raisins sont suffisamment mûrs pour commencer avant cette date.
Ça veut dire que les vendanges maintenant sont terminées pour vous ? Vous êtes plutôt optimiste ?
Alors, les vendanges sont terminées. On est très optimiste sur la qualité des raisins. L'état sanitaire était parfait. Alors, on parle bien des raisins. Et puis, ça fait donc 3 vendanges de suite qu'on a une qualité exceptionnelle en Champagne. Donc, on est très fiers de ce qu'on a pu ramasser en 2018, 19 et 20.
On comprend que si les ventes de champagne ne sont pas au rendez-vous en 2020 en raison du coronavirus, la qualité, elle, sera bien là, de la qualité. Mais qu'en est-il de la quantité de raisins collectés ?
Alors, la quantité, elle était présente. Mais nous avons en Champagne une limite qu'on appelle l'appellation et qui est un nombre de kilos à l'hectare et qui a baissé fortement du fait des méventes cette année et de ce qu'on attend sur les ventes. Donc en fait, on avait beaucoup plus de raisins dans les vignes que ce qu'on était en droit de ramasser.
Ça veut dire que vous avez été contraint de limiter cette récolte de raisins ?
Tout à fait, on a été contraint de limiter la récolte. C'est souvent le cas, hein. On a souvent un rendement agronomique supérieur au rendement de l'appellation.
Qu'est-ce que vous faites alors du raisin ?
Alors ce raisin est mis en réserve pour les coups difficiles ou pour améliorer ce que vous avez déjà en cuvrée. Si vous avez des vins qui sont détériorés ou qui ne vous plaisent pas lorsque vous faites vos assemblages, vous pouvez écarter ces vins et mettre en réserve donc les vins d'une autre année que vous pourrez débloquer par la suite. On est en Champagne un vin d'assemblage, on assemble différentes années, et donc cette chose est permise en Champagne.
C'était des vendanges vraiment particulières cette année ?
C'était très particulier, puisqu'on a parlé très peu de qualité de raisin entre nous. D'habitude, on s'intéresse vraiment à la vigne, Et là, on a parlé Covid toute la vendange.
Et alors, vous vous êtes organisé comment ?
On a des représentants qui avaient très bien fait le travail, aussi bien l'Union des maisons de champagne que le syndicat général des vignerons, qui s'étaient vus et revus entre mars et maintenant pour mettre en place tout un cahier des charges à suivre. Alors, non seulement la distanciation, mais voilà, tout ce qu'on pouvait faire aussi bien à la vigne qu'au pressoir, qu'en cuverie. Ensuite, on a acheté des masques comme tout le monde, du gel hydroalcoolique. On a séparé les horaires pour les uns les autres au moment du déjeuner et des dîners pour éviter que les gens se croisent un maximum. Et on a réduit tout ce qui était festivités, visites de pressoirs, ou même les familles qui viennent visiter les pressoirs. Tout ça a été supprimé pendant cette vendange.
Ces règles de distanciation, de protection, ça a un coût ?
Alors, on estime que ça a un coût, mais bon, le vrai coût pour nous, c'est les méventes de champagne. Le coût sur la vendange, il restera assez faible. Ça fait plus de transport. On fait un peu plus de gymnastique interne pour éviter que les gens se croisent. Mais au final, bon, il y a le coût des masques et du gel, mais ça reste assez faible par rapport au coût des méventes qu'on va avoir cette année.
Oui, on parle quand même d'un surcoût, j'ai lu, entre 90 000 et 110 000 euros. Ça fait quand même une somme pour une maison familiale et indépendante comme la vôtre.
Ah, tout à fait, non, mais c'est une somme. Mais le fait des méventes avec des ventes qui vont s'effondrer entre 30, 40% suivant les maisons, alors que vous avez toujours vos charges fixes, le coût sera bien supérieur à cela.
Oui, ça, c'est votre véritable inquiétude, en fait, pour l'avenir, la forte baisse des ventes et des exports, de l'exportation, notamment de champagne.
Oui, oui, c'est la principale crainte du secteur. Et c'est pour ça, quand je vous parlais d'appellation qui a baissé, pour vous donner une idée, en 2019, la champagne, dans son ensemble, vendait 300 millions de bouteilles. Et cette année, les estimations sont entre 200 et 230 millions de bouteilles, donc une réduction très importante.
On sait qu'on arrive la période de fin d'année, c'est une période importante pour les producteurs, et quelles sont les premières tendances pour vous ?
Alors, c'est la plus importante de l'année, c'est 40% des ventes pour le dernier trimestre, et avec une perspective qui reste compliquée, puisqu'on avait estimé qu'à partir de la rentrée, les ventes repartiraient et qu'on aurait un peu plus d'engouement autour du champagne, et les règles sanitaires étant ce qu'elles sont, et c'est partout dans le monde, malheureusement, les perspectives restent assez sombres.
C'est-à-dire moins de fêtes, moins de mariages, moins d'événements ?
Ah, il y a moins de fêtes, moins d'événements. On vend, nous, beaucoup en restauration, donc on est très impactés, mais on vend aussi dans des salles de spectacle, il n'y a pas de spectacle. Les traiteurs ne fonctionnent pas, donc comme vous l'avez dit, pour les occasions comme les mariages, mais aussi tous les salons qu'on pouvait retrouver un peu partout. Et tout ça, ce sont des bouteilles qui seront perdues, qui ne seront pas vendues.
Qu'est-ce que vous faites justement si vous avez énormément de bouteilles ? On sait que le champagne n'est pas forcément un vin de garde.
Oh si, vous pouvez tout à fait garder des bouteilles de champagne du moment qu'elles sont gardées dans de bonnes conditions. Et là, avec cette crise, c'est les maisons qui gardent les bouteilles, ce n'est pas le consommateur, donc il n'y a aucun problème. Elles sont gardées dans des caves et le champagne peut être stocké même jusque plusieurs années et pour les millésimes, plus de 10 ans sans aucun souci.
La maison Duval-le-Roy a été fondée en 1850. Il y a un peu plus de 150 ans. Est-ce que cette crise vous a fait craindre pour la pérennité de votre entreprise ?
Ah bien sûr, maintenant, autant au début, on pensait vraiment que c'était une crise comme les autres crises sanitaires qui allaient se limiter à l'Asie et donc ne pas impacter notre environnement premier. Là, avec une crise mondiale et maintenant durable, ça peut avoir un impact jusqu'à la pérennité de l'entreprise, bien sûr.
Vous avez demandé un prêt ?
On a obtenu un prêt garanti par l'État, oui.
Cette année ne sera donc pas pétillante pour le champagne, en termes de vente en tout cas, car la qualité est là et la quantité aussi. Je reviens vers vous, Marie-Josée Cougar, on l'a évoqué avec Julien Duval-le-Roy, il y a une donnée importante pour les maisons de champagne, comme pour les vignerons d'ailleurs, c'est la question des rendements. Pourquoi est-ce que c'est si important ?
C'est très important parce que c'est du rendement dont dépend la quantité de bouteilles. Donc, il y a des discussions. Il faut bien savoir que le monde du champagne est un monde extrêmement organisé et un monde très solidaire et même exceptionnellement solidaire. Personnellement, c'est le seul endroit, le seul secteur de production que je connais où la CGT est du côté du patronat. C'est particulier. Et tout ça parce que finalement, la CGT défend les salariés, les maisons sont dépendantes des salariés et les vignerons sont aussi dépendants du prix qu'on voudra bien leur consentir pour le raisin. Mais les maisons ont diablement besoin du raisin, parce que les maisons ne produisent pas de raisin pour la majorité, grande majorité d'entre elles.
Je voudrais qu'on s'arrête une minute pour bien comprendre. On fait une distinction entre les maisons qui récoltent du raisin et celles qui achètent du raisin ?
Oui, bien sûr, parce que c'est une chose d'être propriétaire de ces hectares et de détenir finalement ce qui est l'or blanc de la Champagne. Et c'est une autre chose de faire du marketing et d'exporter. Il est clair qu'il y a deux mondes en Champagne. Il y a les vignerons qui à la fois plantent la vigne et récoltent le champagne, le fabriquent et le commercialisent. Il y a des vignerons qui vont récolter pour d'autres, pour les maisons, les fameuses maisons, dont certaines sont propriétaires d'hectares, mais certaines non. Et ce qu'il y a, c'est que les prix et les marchés, selon qu'on parle de ces fameuses maisons de Champagne, ou des vignerons ne sont pas du tout les mêmes. En gros, les vignerons vendent en France. Pendant longtemps, la France a été son meilleur client. Mais depuis des années, la consommation en France de champagne se réduit, au point qu'il y a quelques années, assez peu d'années, il y a peut-être 4 ou 5 ans, l'exportation est devenue plus importante que le marché français. Et surtout, l'exportation, elle intéresse les maisons, les fameuses maisons. Par exemple, LVMH, qui est un énorme groupe de luxe et qui est propriétaire des Échos, détient 60% des volumes de champagne. Et donc, une maison comme LVMH, elle vend bien sûr en France, mais elle vend beaucoup à l'exportation. Et que ce soit LVMH, c'est-à-dire via Moët&Cy, la division des alcools de LVMH, que ce soit cette maison ou d'autres maisons prestigieuses, elles ont les reins assez solides pour financer l'exportation, pour avoir des bureaux à l'étranger, pour faire de la promotion, faire connaître les champagnes. Et d'ailleurs, les autres champenois se disent redevables. Ils sont bien conscients du travail qu'ils font parce que c'est eux qui assurent la notoriété du champagne dans le monde. Mais les prix ne sont pas du tout les mêmes. Dans les maisons, on ne trouvera pas de champagne à moins de 28 euros la bouteille. Alors que si on va, surtout si on se déplace, si on va dans une exploitation chez un vigneron, on trouvera de très bons produits à 15 euros, 16 euros, 17 euros la bouteille.
On reviendra sur cette question des prix, Marie-Josée. On voit qu'il y a deux mondes dans le champagne, pour simplifier. Et entre les deux, les négociations sur la question du rendement sont intenses. D'un côté, il faut que les vendeurs de raisins puissent maintenir un revenu acceptable. Et de l'autre, ceux qui vendent le produit fini doivent être vigilants quant à l'évolution des ventes. Cette année, les négociations ont été particulièrement ardues.
C'est l'objet d'intenses négociations. Cette année, ça a été compliqué parce que toute la question était de savoir combien de champagne va être consommé cette année, et personne n'en sait strictement rien. La partie cruciale, on va dire, dans la consommation du champagne, dans la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire celle qu'on vient d'attaquer. Et donc, il s'agissait de ne pas trop produire de champagne, de ne pas accepter un rendement trop élevé, parce que sinon, ça allait alourdir le stock de bouteilles. Et les maisons ont, dans leur financement, enfin, ce qui pèse le plus sur les trésoreries des maisons, ce sont les stocks. Et les maisons ont à peu près, à l'heure actuelle, pour 4 ans de stock. Ça pèse plus de 40% du bilan. Là, ils se sont entendus, finalement, après des négociations âpres, maisons-vignerons, sur un rendement de 8000 kilo-hectares. Le rendement, compte tenu de la qualité de la vendange cette année, compte tenu des conditions climatiques tout à fait exceptionnelles, parce que ça, on a eu un temps très sec, et donc c'est tout le paradoxe de cette année, c'est qu'on va avoir une récolte merveilleuse, mais on ne va pas vraiment pouvoir la récolter, on ne va pas pouvoir la boire probablement non plus. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au lieu de ces 12 000 kilos hectares qu'on aurait pu avoir et récolter, ils se sont entendus, vignerons et maisons, sur 8 000. Et ils sont parvenus, ça a été un accord arraché, et ça a été un genre de, enfin, une grosse transaction, mais qui n'est pas du tout définitive. Ils ont prévu de se revoir en janvier 2021, pour faire le bilan des ventes, 8000 kilos, ça correspond à 230 millions de bouteilles. Si on ne vend pas 230 millions de bouteilles, et si on en vend 200, il faudra retomber à 7000 kilos hectares.
Vous le disiez, il y avait beaucoup de grappes sur les vignes, mais le rendement a chuté de plus de 20% en lien avec la baisse attendue des ventes. Certains plaidaient d'ailleurs pour une baisse encore plus drastique. Marie-Josée, vous parlez d'un secteur très uni, une famille, mais il y a tout de même eu une scission au sein du syndicat des vignerons en juin dernier.
On va dire que c'est un peu comme disait Jules Renard, il définissait la famille comme étant un ensemble de personnes qui se détestaient mais qui étaient obligées de vivre ensemble. Alors, on n'en est peut-être pas tout à fait là, mais c'est une famille dont les membres sont obligatoirement unis, ils ne peuvent pas, leurs intérêts sont liés. Donc, ce n'est pas possible de ne pas s'entendre. Et chacun, on va dire que ce sont des intérêts bien compris. Chacun a intérêt à ce que l'autre retrouve ses petits.
On sait que les professionnels ont mis en place un certain nombre de mesures, là aussi, pour faire face à cette crise inédite. Il y avait notamment l'objectif de mieux encadrer les promotions alors que vont débuter les foires au vin.
Oui, la question des promotions est une question extrêmement délicate. Elle a été... Alors, déjà, les Champenois nient qu'il y a des promotions. Chaque année, il y a des promotions. Et quand on interroge les Champenois, ce ne sont jamais eux qui sont à l'origine des promotions. Et les maisons qui font des promotions, en gros, on ne les connaît pas. On ne veut même pas savoir qu'elles existent. Mais cette année, dans le catalogue de la foire au vin de Lidl, il y a un champagne qui est proposé à 5 euros la bouteille, alors que le coût de production officiel est de 7 euros. Donc, ça ne va pas représenter des volumes extraordinaires, mais oui, il y a des promotions. Les promotions, cela dit, elles ont été encadrées par la loi qu'on appelle EGalim, hein, qui est la nouvelle loi sur l'alimentation, qui interdit de promouvoir plus de un tiers de la valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut plus donner, faire cadeau d'une bouteille pour une achetée, mais si on achète 3 bouteilles, on peut en avoir encore une gratuite, quoi, si on pousse le jeu.
Vous le disiez, Marie-Josée, la question des promotions va se poser. 5 euros la bouteille chez un distributeur, alors on n'est pas loin du prix de la villageoise, de la grappe fleurie ou du père Benoît, hein, ce qu'on appelait le gros rouge qui tâche dans les années 70 en Bretagne. On est très loin du monde du champagne. J'ai posé la question de la baisse des prix à Julien Duval-Leroy au moment des foires au vin.
Ça va être une tentation pour beaucoup d'opérateurs en recherche de liquidité. C'est toujours le problème sur les foires au vin ou d'autres événements. Vous avez besoin de payer votre matière première et donc des besoins de trésorerie importants. Et ça vous pousse à libérer des bouteilles à des prix que vous ne feriez pas le reste de l'année. C'est ce qu'on attend. On n'a pas vu encore les offres de foires au vin des différentes maisons, coopératives ou vignerons. Mais on s'attend, oui, à ce qu'il y ait de fortes baisses cette année.
Avec des ventes en chute de 20 à 30%, la tentation est grande, effectivement, de brader les stocks. Mais dans le même temps, il va se produire 70 millions de bouteilles de moins cette année, avec la baisse maîtrisée des rendements, hein, c'est énorme. Est-ce que cela, au contraire, peut faire monter les prix, Marie-Josée ?
Les prix du champagne ne baissent jamais. Ça, c'est la politique de la région. La Champagne tient à une image. Son image, c'est un produit haut de gamme, un produit festif. Et ça ne va pas avec des prix cassés. C'est pour ça qu'ils détestent les promotions. Donc, ils ne baisseront jamais les prix. Même dans les pires crises, on n'a pas baissé les prix du champagne. Ils les ont toujours au moins maintenus. Et il y a plusieurs maisons exportatrices, par exemple au Royaume-Uni, qui ont préféré réduire leurs exportations à destination du marché britannique plutôt que de baisser les prix.
Merci Marie-Josée Cougard, spécialiste de l'agroalimentaire aux Échos, et merci à Julien Duval-Leroy de la maison de champagne éponyme, à qui je souhaite une fin d'année plus pétillante. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à consommer nos émissions sans modération. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.